Seigneur, merci pour ces quelques moments, Seigneur Dieu, qu'on peut passer ensemble dans ta présence. Merci pour mes frères, pour mes sœurs, pour cette assemblée. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu nous garantis ta présence jusqu'à la fin des temps. Peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, Seigneur, on sait que tu vas toujours être présent. Et merci parce qu'on peut te glorifier encore librement ici dans ce pays. Ma prière, c'est que tu puisses aussi bénir, nous bénir chacun d'entre nous, Seigneur, non pas par un homme, non pas mais vraiment par ta présence, Seigneur, par ta parole, par les chants qu'on chante aussi, Seigneur Dieu. Merci pour cette opportunité, ce privilège, encore une fois. On te prie de bénir ces quelques instants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va retourner dans le psaume 150. Je vais leur lire, je vais juste faire un petit retour sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Psaume 150, je vais leur lire ici. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le au son du piano. Louez-le avec le tambourin, avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors, comme on a dit la dernière fois, on est tous des hommes et des femmes qui respirent, qui ont le souffle de vie que Dieu nous a donné aussi. Alors, on peut tous louer, adorer le Seigneur Jésus-Christ et sa grandeur. Donc, comme on avait vu la dernière fois, ce psaume-là, en particulier le verset 2, nous mentionne qu'il y a deux raisons pour lesquelles on doit le louer. Premièrement, pour ses hauts faits, donc tout ce qu'il a fait. On a mentionné dans la dernière fois que Dieu a agi depuis le début des temps, depuis la création, et depuis que Dieu s'est choisi un peuple. Il continue à agir, il a continué à agir, comme on l'avait déjà dit aussi. Le peuple d'Israël a été le peuple qui a été probablement le plus favorisé, le plus qui ont vu la manifestation de Dieu de façon incroyable, autant dans l'Ancien Testament, par toutes les œuvres, par toutes les interventions divines, par la sortie de l'Égypte, par la mer Rouge, la traversée du désert, alors que Dieu s'occupait de son peuple à tout point. Même si le peuple a commencé déjà à maugréer dès le début, hein, on s'en souvient malheureusement, dès le début, le peuple de Dieu commençait à se plaindre en disant « Mais est-ce qu'on n'avait pas des cercueils en Égypte pour y mourir là? » Alors que le Seigneur venait juste de les délivrer de façon spectaculaire. Mais on est un peu comme le peuple d'Israël, puis l'apôtre Paul nous rappelle que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction également. Puis c'est facile. Je pense qu'une des choses qu'on doit travailler beaucoup dans nos vies, je pense, c'est vraiment toute la question de la plainte. On se plaint souvent facilement. Ce matin, justement, on parlait parmi les anciens, et puis on se rappelait des bontés de Dieu, comment Dieu avait été intervenu à maintes reprises, autant dans nos vies, mais aussi en Haïti, par exemple, par toutes sortes d'interventions divines, puis par des appointements, où ce qu'on a vu Dieu vraiment agir, de façon à sa provision était constamment là, puis on se réjouissait de ça, puis de savoir aussi en même temps qu'on prend souvent les choses pour acquis. Juste l'eau, on mentionnait juste l'eau, tu sais. Je pense qu'un des frères de notre frère Félix Paulius nous mentionnait que même des endroits qui sont obligés en Haïti actuellement d'acheter l'eau. C'est pas évident. C'est pas. Donc, on remercie le Seigneur pour ça. Donc, c'est sûr, premièrement, on remercie Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Mais on remercie le Seigneur et on loue le Seigneur aussi pour qui il est. On a parlé des différents attributs de Dieu, comme on avait vu la dernière fois. On avait parlé que Dieu était éternel, immortel, infini, vous pouvez en nommer immuable. Donc, ce qui signifie qu'il ne peut changer. Ça implique vraiment que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Non seulement il va dire une chose, il n'est pas comme un homme, comme nous. Comment ça nous arrive souvent de dire, tu sais, qu'on va promettre quelque chose puis on ne l'accomplit pas. Une des choses que je me suis rendu compte dans ma propre vie, c'est que si je dis à quelqu'un « je vais prier pour toi », j'oublie. Alors, c'est parfois préférable de le faire en priant immédiatement avec la personne. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Puis ça, c'est clair, Dieu est un Dieu qui est fidèle et digne de confiance en toute chose. On l'a dit aussi qu'il était incomparable. Un Dieu qui est juste, qui ne fait pas de favoritisme. Dieu tout-puissant, il est omniprésent, omniscient. Dieu est unique. Donc, ce qui signifie non seulement qu'il n'y a aucun autre Dieu, mais aussi qu'il est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aspirations les plus profonds de notre cœur. Et c'est pour cette raison-là que lui seul est digne d'être loué et d'adoré. Ça, on peut le voir dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Dieu est souverain. Et ça, c'est une des choses parce que si on vient un petit peu en arrière, on disait, il y a quelques semaines, plutôt, on disait qu'on doit louer Dieu en toutes circonstances, à tout moment, dans tous les bons comme les mauvais moments. Est-ce que ça implique nécessairement qu'on loue constamment, à toutes les secondes ou à toutes les minutes de notre jour, d'une journée? Pas nécessairement, mais c'est plutôt dans toutes les circonstances de notre vie. Parce qu'on se rappelle, puis on peut pas comparer les épreuves que Job a vécues dans sa vie, c'est des épreuves qui sont relativement, en tout cas, je pense que pas grand monde ici qu'on a vécu ces épreuves-là, tu sais. Mais Job, pendant une bonne partie de sa vie, dans le livre, on peut voir que Job aussi, bien, c'était pas nécessairement des louanges qui sortaient nécessairement de sa bouche, mais... malgré tout, il s'adressait à la bonne personne. Puis c'est pour ça qu'en bout de ligne, c'est lui que Dieu, comme si je peux dire, a dit qu'il était droit malgré tout. Fait que, ça ne veut pas dire, selon les circonstances qu'on vit, ça peut arriver des fois qu'on doit déverser notre cœur vers Dieu. Puis les psaumes sont pleins de toutes ces choses-là. Le pasteur fondateur, lorsque j'ai grandi, c'était un pasteur qui venait, je pense que je l'avais mentionné ici, c'est un pasteur qui venait du pays de Galles. Et puis, suite au réveil du pays de Galles en 1905, il a vraiment eu l'appel de Dieu pour aller travailler dans la francophonie. Et puis, il a commencé à travailler en France. Par la suite, il est venu au Québec. Et puis, par contre, il a vécu quand même la Deuxième Guerre mondiale. Il avait un fils. Et son fils, malheureusement, à cause de la circonstance, à cause de la guerre et tout ce qui se passait, les bruits malheureusement, il a comme développé une maladie mentale. Et puis... Mais dans les circonstances, ça a toujours été pour ce pasteur-là, ça a toujours été quand même une tristesse de voir son fils souffrir. Mais à la fois, c'était un homme qui glorifiait Dieu dans toutes les circonstances, malgré tout. Je me souviens, même quand on était plus jeune, il nous envoyait, il nous envoyait une lettre, mais sur cassette, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les cassettes, là, mais... À l'époque, il nous envoyait une cassette et puis il nous encourageait. Il dit « Je me lève le matin et je glorifie Dieu. » Et puis, c'était un homme qui avait la joie de Dieu, la joie du Seigneur, malgré les circonstances. Fait que, faut pas s'en faire. T'sais, si jamais il y a des circonstances dans nos vies qu'on vit et qui sont relativement difficiles, on peut s'en remettre à Dieu. Les psaumes, comme je disais tantôt la dernière fois, sont pleins de psaumes aussi, de complaintes, de psaumes aussi, où ce que le psalmiste s'en remet à Dieu en disant « Mais jusqu'à quand ces choses-là m'ont arrivé? » Même dans l'Apocalypse, vous vous souvenez, hein, jusqu'à quand tardera à agir pour venger notre sang aussi. Fait que ça fait partie aussi de notre culte d'adoration aussi, ces plaintes-là aussi devant le Seigneur. En autant qu'on s'adresse à Dieu, puis Dieu va répondre, Dieu va nous écouter aussi. Puis en bout de ligne, il va venger son peuple à la toute fin. Si jamais ça n'arrive pas dans ce monde-ci, à la toute fin, il va avoir justice. Donc, c'est vraiment louer Dieu autant pour ce qu'il fait que pour qui il est exactement. On va tourner dans le psaume 145 maintenant. On va juste lire les 12 premiers versets. Et puis, après ça, je vais me référer à un livre que j'ai lu sur... je ne sais pas si vous connaissez Bob Coughlin, c'est un conducteur de louange qui s'occupe de la louange avec le ministère Sovereign Grace Ministries. Ça vous dit quelque chose, oui? Et puis, il a écrit un livre justement qui s'appelle « Worship Matters ». Donc, en français, ça veut dire « l'adoration importante qui est importante », mais c'est un jeu de mots en disant aussi que c'est les questions de louange, si on peut dire, en même temps. Donc, je vais me baser un peu sur les points, selon lui, ce qu'est un adorateur fidèle devant Dieu ou un louangeur qui est fidèle. Donc, psaume 145, on va le lire ensemble. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Verset 4, dans la version Semeur, qui nous dit, ça nous dit que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits également. Il y a vraiment dans ce psaume-là une question aussi de pouvoir transmettre le message de la foi de génération en génération, de faire connaître les œuvres de Dieu aussi. Alors, je vais vous lire, avant qu'on aille dans les points que M. Coughlin parle, je vais vous lire un autre commentaire de Matthew Henry, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, et qui nous parle justement de ce psaume-là et des premiers versets. Donc, Matthew Henry dit, « Quoi que fassent les autres, le psalmiste s'appliquera lui-même à louer Dieu. » Parce qu'il commence en disant, « Je. » C'est ça, le premier mot, il dit, je reviens dans le verset ici, ça dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Ça nous rappelle un peu l'autre psaume, lorsqu'il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Parfois, on doit se parler. On doit parler à notre âme, à notre cœur, pour dire, « Loue l'Éternel, parce qu'il en est digne de louange. » C'est à cette œuvre qu'il s'excite, qu'il s'engage et que son cœur s'élargit. Ce qu'il fait, il le fera et il en éprouvera de plus en plus de satisfaction. C'était son devoir, c'était son plaisir. Observez comment il exprime l'œuvre elle-même. « Je t'exalterai et je bénirai ton nom. Je parlerai de toi en bien, comme tu t'es fait connaître. Je t'exprimerai ainsi la haute idée que j'ai de toi. Et je m'efforcerai de susciter la même chose chez les autres. » Lorsque nous parlons de Dieu en termes honorables, cela est gracieusement interprété et accepté comme une exaltation de Dieu. Encore une fois, psaume 145, verset 2, « Je te bénirai, je louerai ton nom. » La répétition indique la ferveur de son affection pour cette œuvre, la fermeté de son intention d'y abonder et la fréquence de ses performances dans ce domaine. Ça dit, verset 5, « Je parlerai de ton honneur. » Verset 6, « J'annoncerai ta grandeur. » Il voulait rendre gloire à Dieu, non seulement dans ses dévotions solennelles, mais dans sa conversation courante. Si le cœur est rempli de Dieu, c'est de l'abondance du cœur, de ce cœur que la bouche parlera avec respect à sa louange en toute occasion. Quel sujet de discours pouvons-nous trouver plus noble, plus abondant, plus agréable, plus utile, plus inoffensif que la gloire de Dieu? 2, comment il exprime sa résolution d'y persévérer? Il sera constant dans cette œuvre. Chaque jour, je te bénirai. Louer Dieu doit être notre travail quotidien. Aucun jour ne doit s'écouler, si occupé qu'il soit, si douloureux qu'il soit, sans que nous louions Dieu. C'est encore là, on doit parler de notre cœur. Puis c'est comme, un peu comme certains des exercices spirituels, dont la lecture de la parole de Dieu, la prière, bien, on doit aussi s'entraîner à ça. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé. Et même en même temps, c'est de dire, bien, Seigneur, j'ai besoin constamment de ton aide quand même là-dedans. Si je veux te connaître aussi, je dois aussi... C'est pas de se mettre un fardeau sur les épaules en disant, bien, je dois absolument là, performer, mais c'est plutôt de dire, Seigneur, tu me l'as donné le vouloir et le faire, mais je veux persévérer là-dedans en même temps. T'sais. Dieu nous bénit tous les jours, il nous fait du bien. Il y a donc des raisons pour ce que nous le bénissions tous les jours et que nous parlions de lui en bien. Puis là, il dit, il continuera à le faire en parlant du psalmiste, « Je te bénirai dans les siècles des siècles. » Cela signifie premièrement qu'il a résolu de poursuivre cette œuvre jusqu'à la fin de sa vie, pendant toute la durée de son séjour dans ce monde. Que les psaumes qu'il a écrits devraient être utilisés pour louer Dieu par l'Église jusqu'à la fin des temps. Il cite 2 Chroniques, chapitre 29, verset 30. Et il espérait louer Dieu pour l'éternité dans l'autre monde. Ceux qui font de la louange leur travail constant sur terre en tireront une félicité éternelle au ciel. Et Bob Coughlin mentionne que pour un... Qu'est-ce qu'un adorateur ou un louangeur fidèle, si je peux dire? Il y a 7 points ou quelques points qu'il mentionne. Donc, un adorateur ou celui qui loue Dieu de façon fidèle, premier point, va exalter la grandeur de Dieu ou va magnifier. Parce qu'il y a vraiment le terme « magnify » en anglais qui veut dire « exalter » aussi, la grandeur de Dieu. Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire de magnifier ou d'exalter Dieu, selon vous? T'as regardé la parole de Dieu avec une loupe? OK. Oui, la parole de Dieu, je vais le répéter pour que la parole de Dieu est plus grande que qu'est-ce qu'on peut imaginer. C'est vrai de magnifier. Ça ne veut pas dire qu'on agrandit Dieu, là, tu sais, en d'autres mots. Lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on réalise, on change de perspective. L'exemple qui est donné, on va voir les étoiles dans le ciel, elles sont petites, mais si on prend le télescope, par exemple, comme tu l'utilises comme exemple, si on regarde par le télescope, ce sont des étoiles qui sont quand même grandes, grosses aussi. Alors, la louange, c'est faire en sorte qu'on puisse s'aligner vraiment sur qui Jésus ou ce qui Dieu est vraiment. Donc, Dieu est insondable, Dieu est grand, Dieu est immense. Alors, c'est ça. Donc, ce n'est pas que Dieu n'est pas grand et que nous devons l'exalter pour le faire plus grand, c'est plutôt de le considérer selon sa grandeur et changer notre perspective de lui. En d'autres mots, il est vraiment grand selon les Écritures. Puis c'est par la parole de Dieu seulement qu'on peut savoir, on peut connaître, même de façon imparfaite, parce que c'est sûr que la parole de Dieu est complète, c'est la manifestation c'est la manifestation de Dieu aussi. C'est Dieu se manifeste par sa parole, mais nous, on va toujours connaître de façon partiel, tant et longtemps qu'on a été sur ce côté-ci de la terre aussi. Donc, un adorateur fidèle, premièrement, exalte ou magnifie la grandeur de Dieu. Deuxième point, le fait aussi en Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit, comme vous le savez tous, l'an 70. Nous n'avons plus à nous rendre à celui-ci. Jésus-Christ est le vrai temple. Jésus le dit aussi lorsqu'il dit « Détruisez ce temple ». Et je le rebâtirai. Fait que les gens étaient tout étonnés. Ça a pris 46 ans, en 3 jours exactement. Puis ça a pris 46 ans pour le bâtir. Puis on dit, comment est-ce que tu peux faire ça? Mais il parlait vraiment du temple de son corps. Alors, quand que Jésus avait tout accompli sur la croix, il est monté à la droite du Père, il y a vraiment eu la fin des ombres. Donc, la fin des choses qui étaient à venir, tout ça. Toutes les célébrations, peu importe tout la Pâque, etc. Mais le temple, c'est une des choses aussi qui a connu sa fin. Il fallait que ça connaisse sa fin. C'est pour ça qu'on entend souvent parler, puis vous allez souvent entendre parler, malheureusement, surtout dans le milieu dispensationaliste, de la possibilité de rebâtir un troisième temple. Si les Juifs décident de faire ça, bien, c'est un peu comme un blasphème aussi qu'ils font, parce que ils ne reconnaissent pas encore Dieu, Jésus-Christ comme étant le Messie, le Sauveur, le Dieu. Fait que ça peut arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est possible qu'un troisième temple qui soit bâti, mais encore là, ça sera pas selon la volonté de Dieu non plus. Fait que maintenant, Jésus-Christ, il n'y a plus de temple. C'est lui le temple. Et nous, on est aussi des pierres vivantes qui se sont joints à ce temple-là. Donc, on n'a plus à se rendre dans un lieu géographique. Lorsqu'on lui appartient, nous sommes déjà là en lui. Nous sommes des pierres vivantes. Et c'est vraiment notre nouveau lieu de résidence, c'est en Jésus-Christ. On est vraiment en lui. Puis à ce moment-là, étant donné qu'il est le temple, on peut se présenter devant Dieu avec confiance aussi. Donc, un adorateur fidèle, premièrement, exalte, magnifie la grandeur de Dieu. Deuxièmement, il le fait en Jésus-Christ, parce que sinon, ce serait impossible de pouvoir se présenter à Dieu. C'est grâce à l'œuvre de Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, que notre louange et notre adoration est acceptable à Dieu, sur la base de l'œuvre accomplie. Carson a écrit dans Worship Under the Word, nous dit « Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est avant tout une façon de dire que nous devons adorer Dieu par l'intermédiaire du Christ. En lui, la réalité est apparue et les ombres se dissipent. » Hébreux 8:13. Le culte chrétien est un culte de la nouvelle alliance, un culte inspiré par l'Évangile, un culte centré sur le Christ, un culte centré sur la croix. Donc, ensuite, il y a un troisième point, ça dit, ensuite, après avoir dit que Dieu, un adorateur fidèle, exalte, magnifie la grandeur de Dieu, le fait en Jésus-Christ. Troisième point, il le fait aussi par la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 18, « À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même Esprit. » Et puis ça, on peut tourner, si vous voulez, on va tourner dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21, on va le lire ensemble. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Après que l'apôtre Paul ait donné aussi des instructions. Après, l'apôtre Paul, les premiers chapitres, parle de tout ce qui a été accompli en Christ. Donc, l'indicatif, il passe aussi à l'impératif, donc d'agir en conséquence de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Le verset 18, ça dit aussi, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, ça se fait par la puissance de l'Esprit. Puis, on peut demander encore une fois au Seigneur, si on a l'impression parfois que notre cœur est peut-être tiède, notre cœur est peut-être pas dirigé vers lui, ou simplement qu'on n'est pas capable de se concentrer seulement sur le Seigneur, bien, demandons au Seigneur, remplis-moi ton esprit afin que je puisse aussi te louer de façon convenable, de te louer de tout mon cœur, de toute mon âme également. Et puis, voyez-vous, le lien aussi entre d'être rempli du Saint-Esprit, la conséquence aussi, ça dit... Ça nous dit que quelqu'un qui est rempli d'esprit va s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, puis en chantant de tout notre cœur les louanges au Seigneur. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, on peut aussi être des adorateurs fidèles devant lui. Un autre point, il dit, c'est aussi en combinant la parole et la musique. Là, c'est sûr, comme j'ai dit la dernière fois, on a tendance en Amérique du Nord restreindre, c'est ça exactement. Réduire, c'est aussi. On a tendance à réduire c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration. On réduit ça seulement peut-être des chants chantés le dimanche ou la louange qu'on entend, tout ça. Mais non, la louange est beaucoup plus large que ça. Mais on peut quand même aussi, là on spécifie un peu plus le côté des chants cet après-midi. Parce que c'est sûr, malheureusement encore en Amérique du Nord, c'est qu'il y a tellement eu de... On dirait qu'il y a eu beaucoup de marketing qui est impliqué avec la louange et tout ça. Puis souvent, ça a une portée simplement de ça. Justement, ça a une étiquette qui est trop restreinte, c'est sûr. Mais notre vraie louange devrait se faire par toute notre vie également, par tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, par toute notre vie. Donc, en combinant la parole et la musique, ça c'est surtout pour les conducteurs de louange aussi. Un autre point, c'est afin de motiver l'Église rassemblée. OK? Comment est-ce qu'on peut être un adorateur fidèle? C'est en combinant la parole et la musique, mais afin de motiver l'Église rassemblée. Non seulement ceux qui sont en avant, comme notre frère qui joue le piano, notre sœur qui chantait tantôt, les conducteurs de louanges vont le faire, vont inviter les gens à chanter les louanges du Seigneur, les vérités de l'Évangile, tout ça. Mais en tant que membres aussi, les uns des autres, on doit le faire. Puis ça, on va tourner dans Colossiens chapitre 3, verset 16, qui est un peu le passage parallèle de ce qu'on vient de lire dans Éphésiens. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant avec lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, encore une fois, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça veut dire qu'on parle ici de rassemblement de nous-mêmes. Puis je vais vous lire un passage pour ceux qui connaissent Keith et Christine Getty, qui ont composé plusieurs beaux chants, dont « En Jésus seul », nous parle aussi de l'importance du rassemblement de nous-mêmes aussi, dans leur livre qui s'appelle « Chantons ». Ça dit « La musique est la meilleure manière d'exprimer une belle communion d'esprit. Lorsque nous chantons ensemble en tant qu'Église, nous montrons que nous sommes une congrégation de pierres vivantes. » En passant, ça me rappelle aussi lorsque Jésus a dit, quand les enfants chantaient, ils criaient « Hosanna au fils de David », les pharisiens voulaient qu'ils arrêtent, mais il dit « Moi, mais s'ils arrêtent, ces roches-là vont chanter, ils vont louer le Seigneur. » Bien, le Seigneur a vraiment fait quelque chose en changeant d'un cœur de pierre en cœur de chair. Puis maintenant, on est des pierres vivantes qui chantent à la gloire de Dieu aussi. Alors, c'est vrai, c'est effectivement vrai que le Seigneur le fait dans nos vies. Notre chant est une expression audible des liens qui nous unissent et atteste de la vie qui existe dans ces pierres. Nous sommes taillés à partir des mêmes éléments de la foi, unis dans un seul et même Seigneur, remplis d'un seul et même esprit, accueillis dans une seule et même Église pour lui offrir notre louange. Nous sommes ciselés et polis par le chant, comme par tous les autres aspects de notre vie. Nous sommes soudés parce que nous chantons ensemble. De bien des manières, le mot-clé de la phrase précédente n'est pas la musique ni même le chant. C'est le terme « ensemble » qui est important. De nos jours, la musique dans l'Église a pris une place bien plus importante et visible, ne serait-ce parce qu'elle est devenue lucrative d'un point de vue commercial, comme on mentionnait tantôt. Cependant, nous risquons de minimiser l'importance de chanter ensemble. Ce n'est pas la même chose de s'écouter les uns les autres, marmonner timidement devant un groupe qui joue de manière experte sur la scène d'un bâtiment d'Église et de chanter ensemble en tant que congrégation. L'Église médiévale a commis l'erreur de considérer la Sainte Cène comme une sorte de spectacle que l'Assemblée observait pendant que les professionnels y participaient. Ne risquons-nous pas de reproduire cette erreur avec la musique aujourd'hui? Ça, c'est quand même une mise en garde. Alors, ainsi, quand vous chantez, regardez autour de vous, encouragez les autres par les paroles que vous chantez, attendez-vous à être encouragé par le fait que d'autres chantent avec vous et que leur chant s'adresse aussi à vous. Nos parcours individuels se rencontrent au carrefour du culte de louange. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes membres d'une famille multigénérationnelle, multiethnique, multi-tout. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas indépendants, mais que nous avons besoin d'un sauveur. Et puis ça, c'est bien important, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, et surtout depuis la pandémie, ont abandonné l'assemblement des croyants. Et puis, c'est tragique. Les gens ont même abandonné le fait de marcher avec le Seigneur. Il y a vraiment quelque chose de particulier lorsqu'on se rencontre en tant qu'Église au milieu avec son peuple, parce que Dieu est vraiment de façon particulière au milieu de nous, par son esprit. Et puis, c'est vraiment une des choses qu'on ne doit pas négliger. Un peu plus loin, l'auteur nous dit ici, « Aucun homme n'est une île. Rien ne dilue le chant en assemblée ou ne sape notre unité autant que l'oubli de cette vérité. Nous ne sommes pas des îles. Un nombre inquiétant de croyants délaisse aujourd'hui le rassemblement hebdomadaire avec d'autres chrétiens dans une église locale. Ils considèrent leur foi comme individuelle et personnelle entre eux et Dieu. Et ils croient que l'Église existe uniquement pour servir leur quête spirituelle. Cela amène des gens à quitter des églises car ils n'en retirent rien. Comment est-ce que vous avez entendu de gens qui disent, des gens qui sont malheureusement trop individualistes, trop individuels, dire après un certain temps, ben, ça ne m'apporte rien, tu sais, je suis pas nourri. Ou ben, malheureusement, c'est souvent le cas. Puis, comme je dis, ça s'est accentué, surtout depuis la pandémie, tout ça. Bien évidemment, vous devriez retirer un bénéfice personnel d'une église locale, mais on ne peut le faire qu'en servant l'église. Ce sentiment masque souvent quelque chose. C'est une excuse pour ne pas avoir à s'engager envers la communauté. Une des choses que, lorsqu'on s'engage en tant que frère, en tant que sœur, on doit être prêt aussi à recevoir autant l'encouragement, les paroles de réconfort, mais aussi même l'exhortation. On doit se rendre vulnérables les uns les autres. On est vraiment faisant partie du corps de Christ, que Dieu a accordé des dons à chacun. Mais parfois, c'est mon frère qui va venir me voir et me dire, « Bien, frère, tu prends une mauvaise tangente et tout ça. » S'il le fait dans l'amour, il va me racheter, il va racheter ma conduite. C'est important aussi de pouvoir se rendre vulnérables les uns envers les autres, aussi d'être soumis les uns avec les autres. Et puis, le chant, c'est une des façons aussi de manifester notre encouragement les uns avec les autres, parce qu'on parle, notre vie est un témoignage devant Dieu. Notre vie parle par lui-même aussi, par elle-même aussi. Et on peut juste le faire dans une assemblée. Pensez aux églises auxquelles Paul a écrit dans les décennies suivant l'ascension de Christ. Chacun était un sentiment éclectique de préférence, d'expérience et d'arrière-plan. Elle regroupait ceux qui étaient éduqués et ceux qui ne l'étaient pas, ceux dont les poches étaient pleines et ceux qui peinaient à joindre leurs deux bouts. Elle ressemblait à des croyants provenant de divers milieux religieux et culturels, ce qui causait des tensions, etc. Mais juste pour vous montrer en bout de ligne que l'important, c'est que ce que nous y apportons, c'est pas qu'est-ce qu'on va retirer de l'Église, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va apporter envers mon frère, envers notre sœur aussi. Je ne peux comprendre qui je suis en dehors du « nous » de l'Église ensemble. Et puis, c'est une des choses que Coughlin mentionne, que l'importance de se motiver en Église, en assemblée également, par le chant, par l'encouragement, faut se voir un petit peu comme si on était un orchestre, mais que chacun joue un rôle particulier ou une partie de la pièce particulièrement. C'est important d'être là aussi, d'être présent pour notre frère, pour notre soeur également avant tout. Okay? Et dernier point aussi qu'il mentionne, c'est qu'un adorateur fidèle aussi va aussi permettre de pouvoir proclamer l'Évangile. Puis c'est important, vous choisissez vraiment des chants qui sont bénis ici parce que le message de l'Évangile est clair. Les vérités concernant le Seigneur sont claires. Et puis, c'est vraiment béni parce que quand on les chante, on les proclame au Seigneur, mais en même temps, on édifie notre frère, on édifie notre sœur également. Donc, si je répète, juste pour dire les points que Coughlin nous mentionne, c'est que, premièrement, un adorateur fidèle, premièrement, exalte ou magnifie la grandeur de Dieu. C'est pas parce qu'on le rend plus grand, mais plutôt, on change de perspective parce qu'il est déjà grand. On le fait en Jésus-Christ parce qu'il n'y a plus de temple, parce que Jésus-Christ est le vrai temple. Et en lui, notre adoration, notre louange est convenable, est acceptable aux yeux de Dieu à cause des mérites de Christ, à cause de son œuvre. On le fait par la puissance du Saint-Esprit. On peut demander au Seigneur de nous remplir de son esprit régulièrement. On le fait aussi afin de motiver l'Église rassemblée et aussi afin de proclamer l'Évangile de Dieu. Alors, juste en terminant, je vous lis un dernier point que notre ami Matthew Henry aussi m'a mentionné, puis j'ai bien aimé aussi. Parce que si peut-être vous êtes au courant déjà, mais dans le livre des psaumes, le livre des psaumes a été divisé en 5 parties, tu sais. Puis, il se termine toujours par une doxologie à la fin. Puis, souvent, c'est le « Amen », le « Alléluia », etc. Fait que je vais vous lire ce qu'il dit en parlant des psaumes aussi. Les trois premiers des 5 livres des psaumes, selon la division hébraïque, se terminaient par « Amen » et « Amen ». Le quatrième par « Amen, Alléluia ». Mais le dernier, et en cela le livre entier, se termine par « Alléluia » seulement, car les 6 derniers psaumes sont entièrement consacrés à la louange de Dieu. Il n'y a pas de mots de plainte ou de pétition dans ces psaumes. Ça, je n'avais pas marqué ça auparavant, mais c'est effectivement le cas de 145 à 150. Ce sont tous des psaumes de louange, d'adoration envers Dieu. Plus les chrétiens s'approchent de leur fin, plus ils devraient être remplis de louanges de Dieu. Mais de même qu'ils indiquent que les gloires du ciel sont les gloires les plus excellentes, de même ils indiquent que les louanges que les saints y offriront seront les louanges les plus excellentes. Les prières y seront englouties par des louanges éternelles. Il n'y aura pas d'interruption dans la louange de Dieu et pourtant pas de lassitude. Des alléluia toujours répétés et pourtant des chants toujours nouveaux. Prenons souvent plaisir à penser à ce que font au ciel les saints glorifiés, à ce que font ceux que nous avons connus sur la terre, mais qui nous ont précédés dans le ciel. Et que cela ne nous donne pas seulement le désir d'être parmi eux, mais nous incite à accomplir cette partie de la volonté de Dieu sur la terre, comme le font ceux qui sont au ciel. Consacrons-nous autant de temps que possible à cette bonne œuvre, car nous espérons y passer une joyeuse éternité. Alléluia est le mot utilisé dans Apocalypse chapitre 19, versets 1 et 3 aussi. Faisons-y écho maintenant, comme ceux qui espèrent s'y joindre bientôt. Alléluia, loué soit le Seigneur. Et puis, juste pour terminer aussi, une des choses qu'on se rappelle, c'est que quand Jésus a parlé à la femme samaritaine au bord du puits, il a dit Dieu se cherche des adorateurs en esprit, en vérité, comme on l'a vu la dernière fois. L'adoration va continuer tout au long de l'éternité. Puis il ne faut pas s'inquiéter pour dire est-ce qu'on va être las, justement, comme Matthieu Henry le mentionne, est-ce qu'on va se tanner, quoi que ce soit. Il n'y aura pas de lassitude dans les lieux célestes. On n'aura plus ce corps de mort, ce corps de péché. On va pouvoir contempler la grandeur de Dieu, qui est un Dieu qui est insondable. J'ai de la difficulté même à m'imaginer qui Dieu, tu sais, comment Dieu va paraître, parce que il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, homme qui va être là, c'est sûr, mais Dieu qui est esprit, comment ça va être, on ne sait pas, tu sais. Mais une chose, on va avoir des éternités, même quand on va passer une éternité, comme quelqu'un a déjà dit, on va juste commencer à découvrir le tout début de qui Dieu est vraiment. Fait qu'il n'y aura pas de lassitude, on ne sera pas comme blasé, quoi que ce soit. Une fois qu'on est en Jésus-Christ, une fois qu'on va le voir face à face, ça va être sublime. Même l'apôtre Paul le dit, quand il a eu cette vision-là au troisième ciel, il ne peut même pas décrire ce que c'est. Mais que Dieu nous encourage à persévérer là-dedans aussi, dans la louange, l'adoration, à le découvrir même d'ici, de ce côté-ci de la terre, de la mort plutôt, et puis qu'on puisse le découvrir et le faire connaître aux autres. Le but, c'est toujours ça. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ pour le faire connaître également. Mais que Dieu puisse faire de nous des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Alors, Seigneur, merci de nous transformer de plus en plus à ton image, Seigneur. Souvent, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que je connais absolument rien, oh Dieu, je ne te connais pas, j'ai juste effleuré la surface de qui tu es. Mais, Seigneur, on veut te rendre grâce pour la parole qui a été transmise d'une génération à l'autre, au prix de parfois de vie, de gens qui ont payé de leur prix, de leur vie, Seigneur Dieu. On pense malheureusement à plusieurs personnes qui ont été tuées pour. Mais le fait qu'on ait cette parole de Dieu dans nos mains aujourd'hui, Seigneur, on te rend grâce pour tous ceux qui nous ont devancés, mais en même temps, on ne veut pas la prendre pour acquis. Parce que c'est là-dedans qu'on va tirer tous les trésors de qui tu es, de la sagesse également. Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'organiser nos vies afin qu'on soit des gens qui soient disciplinés devant toi, non pas de façon légaliste, mais tout simplement pour racheter le temps, Seigneur. On veut te connaître, on désire te voir, on désire agir, te voir agir, Seigneur, dans toutes les circonstances de nos vies. On veut te louer pour ce que tu fais, comme on l'a mentionné tantôt, mais pour qui tu es aussi, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de te voir de plus en plus, que tu manifestes ta gloire envers nous, Seigneur. Permets-nous de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ aussi, afin qu'on persévère jusqu'à la fin. Et Seigneur, un jour, bientôt, Seigneur, on ne sait pas quand, ça pourrait être cette semaine, Seigneur Dieu, on ne sait pas quand nos jours seront terminés, mais peu importe, on a cette conviction, cette assurance qu'on va te voir un jour, puis là, on va pouvoir te voir face à face, te contempler. Merci, Seigneur, qu'on puisse garder toujours cet émerveillement dans nos vies et qu'on soit vraiment des adorateurs fidèles devant ta face, on te prie dans le nom de Jésus. Bénis encore une fois cette Église. Seigneur, bénis-les. Seigneur, donne des âmes à salaire ici, que ce soit ici, que ce soit à Fabreville, oh Dieu, partout au pays, Seigneur, partout au Québec, Seigneur, on te demande vraiment d'agir. On a besoin de toi. Seigneur, on est un peuple qui est assoiffé. qui a besoin d'être rafraîchi par ta présence, rafraîchi par Jésus-Christ. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.